VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiache et Anne Albertson avec vous. Au sommaire de ce mercredi 17 février 2016, Anne.
En Centrafrique, polémique suite à des soupçons de collusion.
En Guinée, arrestation de 20 militants de l'opposition.
Migrants, 11 pays de l'Union européenne se réunissent pour évoquer la répartition des migrants.
Au Bénin, la distribution au compte-gouttes des cartes électorales exaspère les électeurs. Avant la Minute Éco et les sports, voici le journal. En Centrafrique, une polémique a éclaté hier suite à des allégations de rencontres secrètes à Bangui entre Anissé Georges Dologuele, candidat au second tour, et un haut responsable de l'Autorité nationale des élections, John Linden.
Simplice Sarandji, directeur de campagne du candidat Faustin Archange Touadéra, a accusé hier Julius Nguadé Baba, rapporteur général de l'ANE, d'avoir rencontré en privé l'autre candidat, Anissé Georges Dologuele. Il a précisé que cette rencontre a eu lieu lundi vers 21h dans une résidence non loin du motel dénommé Katimini à Bangui. La direction de campagne de M. Touadéra condamne ces agissements alors que les résultats du second tour de la présidentielle sont en cours de traitement. L'entourage de M. Dologuele a nié catégoriquement ces accusations et Julius Nguadé Baba n'était pas joignable hier. L'ANE a commencé hier la proclamation des résultats partiels et provisoires du second tour pour la ville de Bangui. L'Agence nationale des élections a prévenu que le vainqueur ne sera pas connu avant une semaine.
En Guinée, 20 militants de l'opposition arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la mort par balle d'un journaliste ont été inculpés et conduits à la prison de Conakry. Des détails avec Bagassi Koura.
D'après Salifou Béavogué, un avocat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, les 20 militants ont été présentés à un juge d'instruction qui les a inculpés et écroués à la prison civile de Conakry. Ils sont accusés d'assassinat, complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires et non-assistance à personne en danger. D'après un responsable du parti, les prévenus sont tous des jeunes volontaires qui assurent le maintien de l'ordre pendant les manifestations politiques. Ils avaient été entendus dans le cadre de l'enquête sur la mort du journaliste Eladj Mohamed Diallo, le 5 février. Notre confrère a succombé après avoir été blessé par balle dans des heurts devant le siège de l'UFDG. Selou Dalène Diallo, chef de ce parti, leader de l'opposition, et son ancien vice-président Amadou Ouriba sont à couteau tiré. Aboubakar Sila, autre avocat de l'UFDG, accuse les enquêteurs d'orienter leurs recherches dans le camp de Selou alors que son rival Baouri n'est pas inquiété.
Des casques bleus congolais ont été accusés d'avoir abusé de 4 enfants vivant dans un camp de déplacés en République centrafricaine. D'après l'ONU, les 4 victimes ont été agressées entre 2014 et 2015. Sur 69 cas d'abus sexuels présumés recensés l'an dernier par l'ONU, 22 concernaient la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA.
Bilan des attaques à la grenade à Bujumbura. Médecins sans frontières dit avoir pris en charge plus de 60 blessés hier dans la capitale burundaise. 2 décès ont été rapportés.
Lutte contre Boko Haram. L'armée camerounaise dit avoir neutralisé 162 terroristes lors d'une offensive à Ngoché au Nigeria. L'offensive de la semaine dernière visait le commandement du groupe islamiste. Beaucoup d'armes et de matériel auraient été saisies. 100 de prisonniers de Boko Haram ont été libérés. 2 jeunes officiers camerounais ont été tués.
Manifestation de jeunes à Niamey, au Niger. Sans incident, des milliers d'étudiants et de collégiens ont marché dans les rues de la capitale. Ils entendaient ainsi commémorer le décès de 3 jeunes en février 1990 sous les balles de la police.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise syrienne, feu vert du gouvernement de Damas à l'envoi de l'aide humanitaire dans 7 zones assiégées. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU critique les frappes turques contre les milices kurdes en Syrie. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon l'Office des Nations Unies pour l'aide humanitaire, OCHA, Damas a donné son autorisation à l'acheminement de l'aide humanitaire vers les zones assiégées suite à la visite mardi de l'émissaire spécial onusien Staffan de Mistura dans la capitale syrienne. Parmi les 7 zones visées figurent Deir ez-Zor, Khafaya, Kafar Batna et Madamiyet el-Salam, a indiqué une porte-parole d'OCHA à l'AFP. Les agences humanitaires et leurs partenaires préparent les convois pour ces zones afin qu'ils puissent partir dès que possible les prochains jours, a précisé la porte-parole. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU a fait part de son inquiétude au sujet des frappes turques contre les milices kurdes dans le nord de la Syrie. Les membres du Conseil sont tombés d'accord pour demander à la Turquie de respecter le droit international, a déclaré le président du Conseil, l'ambassadeur vénézuélien Rafael Ramirez Carreno. La Syrie, qui avait demandé au Conseil de condamner l'intervention turque, s'en est réjoui par la voix de son ambassadeur à l'ONU, Bachar al-Jafari.
Un groupe de 11 pays dits volontaires de l'Union européenne se retrouvera demain à Bruxelles pour évoquer le projet d'Angela Merkel de répartir davantage de réfugiés en Europe directement depuis la Turquie, en échange d'une lutte accrue d'Ankara contre la migration illégale. Mais le camp des pays intransigeants impose déjà le contrôle aux frontières. Des détails avec Nani Talani.
La chancelière allemande Angela Merkel et son homologue autrichien Werner Faymann vont accueillir les dirigeants des 9 pays de l'Union européenne pour discuter de la réinstallation en Europe de 160 000 réfugiés aujourd'hui installés en Turquie. D'après le ministre grec aux Affaires européennes, Nikos Zidakis, c'est la seule voie qui soit absolument sûre à la fois pour éviter aux gens une traversée dangereuse en mer Égée et pour les pays d'accueil, puisque les demandes d'asile sont examinées et vérifiées en amont dans les camps de réfugiés en Turquie. Il faudrait que la Turquie ait au préalable fait en sorte de limiter ou pour la plus grande partie d'empêcher la migration illégale vers l'Europe, a souligné Mme Merkel. De leur côté, les pays partisans de mesures radicales contre le flux migratoire veulent imposer leur plan B avant le sommet de Bruxelles. Celui-ci consiste à fermer les frontières le long de la route des Balkans emprunté en 2015 par plus de 800 000 candidats à l'asile et a verrouillé notamment la frontière nord de la Grèce avec la Macédoine.
L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est convoqué aujourd'hui par la justice de son pays. L'ancien ouvrier métallurgiste qui a quitté le pouvoir fin 2010 avec une popularité record de 80% après 8 ans de mandat doit s'expliquer sur des soupçons de dissimulation de patrimoine à propos d'un appartement dans l'état de São Paulo dans le sud-est du Brésil. À ce stade, le couple n'est pas poursuivi dans ce dossier. L'une des multiples ramification du gigantesque scandale politico-financier de corruption autour du groupe public pétrolier Petrobras. Mais le procureur Cássio Conserino a récemment déclaré à la presse que Lula pourrait finir par être inculpé, provoquant des réactions indignées dans l'entourage de l'ex-président qui proteste avec véhémence de son innocence. « Il n'y a pas âme qui vive plus honnête que moi dans ce pays », a proclamé l'ex-président au milieu de cette tempête. La présidente Dilma Rousseff a défendu son prédécesseur et mentor pour dénoncer la grande injustice dont il serait victime. Mais Mme Rousseff est elle-même politiquement très affaiblie par une procédure de destitution à son encontre, la récession économique et les remous du scandale Petrobras.
4 avions de chasse furtifs F-22 américains sont arrivés aujourd'hui sur une base aérienne située près de Séoul. Nouvelle démonstration de force de Washington après le récent essai nucléaire et tir de fusée nord-coréen. Escortés par 8 autres appareils de combat américains et sud-coréens, les F-22 ont atterri sur la base aérienne Dosan, près de Pyeongtaek, à 70 km au sud de la frontière avec la Corée du Nord, rapporte un photographe de l'AFP. Des chasseurs furtifs originaires sont d'ordinaire basés à Okinawa, dans le sud du Japon. On ignorait combien de temps ils resteraient en Corée du Sud. Lundi, le sous-marin d'attaque USS North Carolina est arrivé dans le port de Busan, dans le sud de la Corée du Sud, pour participer à des exercices conjoints avec la marine sud-coréenne. Un porte-avions nucléaire, l'USS John C. Stennis, est également attendu en Corée du Sud pour participer à des exercices conjoints prévus en mars, selon l'agence sud-coréenne Yonhap. Un mois après son essai nucléaire, la Corée du Nord a tiré le 7 février une fusée à longue portée, un lancement largement considéré comme un essai de missile balistique déguisé.
Amérique toujours, mais politique intérieure cette fois-ci. Le président Obama a martelé hier sa conviction que Donald Trump ne lui succéderait pas à la Maison-Blanche en 2017, qualifiant de troublants les propos de M. Trump et de ses concurrents républicains sur le climat ou encore sur les musulmans. « J'ai confiance dans le peuple américain. Ils sont conscients du fait qu'être président est un métier sérieux. Cela n'a rien à voir avec l'animation d'une émission de télé-réalité », a lancé le président des États-Unis lors d'une conférence de presse en Californie, en marge d'un sommet avec les pays de l'ASEAN. Le président américain, dont le successeur sera désigné le 8 novembre, a longuement insisté sur le fait que nombre des rivaux du milliardaire épousaient des thèses similaires, même si elles étaient parfois exprimées de manière moins provocatrice.
À signaler pour terminer qu'en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen hier pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Paris dans un communiqué. L'ancien chef de l'État a été entendu toute la journée par le juge d'instruction qui soupçonne un trucage de ses comptes de campagne pour cacher une explosion du plafond légal de dépenses fixé à 22,5 millions d'euros.
Ensuite, c'est la Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La banque française, la Société Générale, s'est associée à Zoco Labs au Sénégal pour lancer son lab, entendez son laboratoire d'idées dédié à l'innovation dans le secteur de la finance en Afrique. Selon nos confrères de Jeune Afrique, ce lab se veut un incubateur pour des initiatives innovantes qui pourraient être mises en œuvre dans les réseaux Société Générale en Afrique. L'esprit de cette initiative est de multiplier les modèles bancaires innovants à la façon de Manco, cette filiale de la Société Générale dont les commerciaux sillonnent à moto les quartiers de Dakar afin de proposer aux petits entrepreneurs et commerçants une offre bancaire simple. La Société Générale est présente dans 18 pays en Afrique. Le Burkina Faso simplifie ses procédures de dédouanement. La nouvelle plateforme de collecte électronique de documents de pré-douane, dénommée Sylvie, vient d'être mise en exploitation selon l'agence APA. Sylvie permet la simplification des procédures de dédouanement, une meilleure traçabilité des documents, la lutte contre la fraude et la lutte contre la fuite des capitaux. Le coût total du projet est de 1,25 milliard de francs CFA. Le plus gros diamant jamais découvert en Angola, un diamant de 404 carats, a été extrait par la société minière australienne Lucapa. Interrogé par des médias australiens, le PDG de Lucapa a estimé que cette pierre précieuse d'une longueur de 7 cm pourrait valoir plus de 12,8 millions d'euros.
Merci Claire Morin-Gibourg. Place au sport maintenant avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi. Alors Hervé Renard est de retour sur le continent?
Oui, c'est officiel. Le français Hervé Renard est bien le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc en remplacement du Marocain Badou Zaki. Son premier objectif, a-t-il dit, est la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017, mais aussi pour la Coupe du Monde 2018. Âgé de 47 ans, Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à deux reprises avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.
On reste en football avec la huitième de finale allée hier soir de la Ligue des champions en Europe.
Oui, les Portugais du Benfica qui recevaient le Zénit Saint-Pétersbourg l'ont emporté 1-0. À Paris, le PSG a battu Chelsea Football Club au Parc des Princes 2-1. À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité, 1-partout. Les buts parisiens ont été l'œuvre d'Ibrahimovic à la 39e minute et de Cavani à la 78e. En face, le but de Chelsea a été marqué par le Nigérian Obi Mikel à la 45e minute.
Et en 16e de finale aller de l'Europa League, il y avait un match au programme.
Oui, les Turcs de Fenerbahçe ont eu raison des Russes de la Lokomotiv Moscou 2-0. Les deux buts ont été l'œuvre de Souza à la 18e et 72e minute.
Et aujourd'hui, mercredi, suite de la 8e finale aller de la Ligue des champions.
Les Belges de la Gantoise affrontent les Allemands du VfL Wolfsburg. Il y a le choc AS Roma et le Real Madrid. Signalons que ce sera le premier match de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur avec le Real à ce niveau du football européen.
Et puis le Burkinabé Alain Traoré serait en essai en Espagne avec un club russe?
Oui, selon des informations relayées par le journal français Ouest France, l'international burkinabé va effectuer un essai en fin de semaine avec le club russe de Kirilia Sovetov, actuel 12e du championnat russe. Le milieu de terrain du FC Lorient en France a rejoint l'Espagne ce lundi où le club russe se prépare pour la reprise du championnat prévue début mars. Arrivé à Lorient en 2012, Alain Traoré n'a joué que 46 matchs avec Lorient. Cette saison, il n'a disputé que 23 minutes en Ligue 1.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous. Tout de suite, les dossiers du jour. Au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall restera non pas 5, mais 7 ans au pouvoir. Quant aux autres réformes, elles seront soumises au peuple le 20 mars prochain, lors du référendum. Les réactions de la classe politique sont diverses après cette annonce inattendue. Soknana Tambay.
Le mandat en cours du président de la République connaîtra son terme en 2019.
La nouvelle est tombée comme un coup près. Le quinquennat, ce ne sera pas pour le premier mandat du président Macky Sall. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis le 12 février dernier et le chef de l'État a choisi ce 16 février pour expliquer la position des cinq sages.
Sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle.
Pour le juriste Maître Abdoulaye Babou, il y a problème. L'avis du Conseil ne constitue pas une décision. Le mot final revient toujours au président.
Le Conseil constitutionnel est consulté en tant qu'organe qui représente le pouvoir judiciaire. Parce que l'Assemblée nationale représente le pouvoir législatif, le Conseil constitutionnel est le premier organe cité pour représenter le pouvoir judiciaire. On lui demande son avis et l'avis ne lit pas.
Cela ne change rien à la finalité, déclare Abdelatif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement.
Il n'y a jamais eu d'avis, quelle que soit la nature, décision ou avis, qui n'ait pas été respecté par les présidents de la République du Sénégal. Depuis que le Conseil constitutionnel existe. La volonté de Macky Sall ne peut pas primer sur le droit.
Presque tous les partis de l'opposition ont refusé de se prononcer après le discours. C'est le cas du PDS, du parti Réoumi, dirigé par Idrissa Seck, entre autres. L'un des rares à faire une déclaration, le grand parti, créé par des frondeurs de l'AFP, l'Alliance des Forces de Progrès, parti du président de l'Assemblée nationale. D'après Mamadou Goumbala, la parole du président Macky Sall ne vaut plus rien.
Le président du Sénégal, le gardien de la Constitution, c'est celui qui parle au niveau international et qui décide pour le Sénégal. Celui-là, il se réunit. Il a fait un parcours. Macky a dit, je vais faire. S'il veut faire, moi, je lui lance un défi. Il n'a qu'à démissionner.
En dehors de la réduction du mandat, d'autres dispositions non susceptibles de révision seront proposées par le chef de l'État. Pour le texte final, devant être soumis au peuple. Autre point important du discours, la date du référendum. Macky Sall.
À la lumière de ce qui précède, je convoquerai le référendum le dimanche 20 mars 2016. Si j'ai préféré cette voie en lieu et place de la voie parlementaire, c'est parce que le référendum reste le meilleur gage d'une appropriation populaire de la réforme.
Sohnana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Au Niger, les élections présidentielles auront lieu dimanche prochain. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Nicolas Pineau.
Les rues de la capitale nigérienne sont animées depuis le début de la campagne électorale. Du rose, du orange, les affiches des candidats sont bien visibles un peu partout. Plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire un nouveau président et des députés. Élu en 2011, le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Mahamadou Issoufou, affirme que son bilan parle pour lui. Écoutons le député Assoumana Malam Issa. Il est en charge de la mobilisation nationale pour le PNDS. Il se dit confiant quant à la victoire au premier tour de son candidat.
Nous sommes sereins, nous sommes confiants et nous avons la conviction que les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions. En plus du programme qu'on a mis en œuvre, on a proposé un autre programme qui est porteur d'espoir, qui est une sorte de continuité de ce qu'on a déjà fait. Donc nous avons plusieurs raisons, trois raisons, quatre raisons fondamentales qui nous font croire, avec la mobilisation perceptible qu'on a vue, que notre candidat va être élu dans le premier tour, Inch'Allah.
Comme en 2011, Seyni Oumarou sera le candidat du MNSD Nassara et le grand absent de cette campagne, c'est Tama Amadou, arrivé troisième lors du précédent scrutin présidentiel. L'ancien président de l'Assemblée nationale est en prison dans l'affaire dite du trafic de bébés. Sa candidature a pourtant été validée, mais le candidat du Modem Lumana Africa reste bien derrière les barreaux. Une drôle de campagne, comme le reconnaît son directeur national, Mahamadou Youba Diallo.
Pour nous, nous pensons qu'il est un prisonnier politique. Parce que le dossier dans lequel on l'a injustement impliqué, tous ceux qui sont dans ce dossier-là, eh bien, ils sont aujourd'hui en train de mener la campagne. Et parmi eux, il y a des candidats à la présidence. Et pourquoi Hamad ne sort pas? Ils peuvent nous expliquer ça.
Une quarantaine de partis ont d'ores et déjà apporté leur soutien au président Issoufou qui pourrait l'emporter dès le premier tour. C'est son pari. Un objectif crédible, selon le directeur du journal L'Événement, Moussa Aksar.
Oui, moi je pense que le président Issoufou est favori. Si on regarde à travers le rétroviseur ce qu'il a eu à faire comme réalisation, il a un fort bilan. Et pour la première fois, on voit que c'est une quarantaine de partis politiques qui le soutiennent pour sa réélection. Et pour qu'il soit élu dès le premier tour, si on regarde aussi, il y a des candidats, il y a un parti politique, l'ANDP Zamalahia, ne présente pas de candidat. Et c'est un parti vraiment qui est aussi au niveau de l'Ouest et le soutien de le premier tour.
Les missions d'observation de l'UEMOA ou de l'Union africaine sont présentes au Niger pour s'assurer du bon déroulement du scrutin du 21 février. Et Nicolas Pinault depuis Niamey pour VOA Afrique.
Au Bénin, le processus de distribution des cartes d'électeurs est en panne. En cause, leur distribution au compte-gouttes, pour le plus grand mécontentement des électeurs. Les précisions de Ginette Fleur Adindé.
Difficile de dire si tous les Béninois en âge de voter auront avant la date fatidique du 6 mars leur carte d'électeur, et le mécontentement enregistré en dit long sur la distribution de cet outil important pour cet imprésidentiable. La situation est d'une incompréhension insoutenable.
Je ne peux pas comprendre comment un scrutin qui doit se dérouler le même jour, à la même heure, sur toute l'étendue d'un territoire national, et qu'on puisse différer la distribution des cartes sur ce même territoire, alors qu'il y a un délai à respecter pour les préalables. De là prendre les Béninois pour des pantins, je dis qu'ils sont en train de passer à côté.
C'est insupportable d'être investi d'une mission aussi délicate. Et au lieu de s'occuper de cette mission, on va enfiler le maillot de son candidat et on prône le chaos pendant que la fabrication de cartes se fait à une vitesse d'escargot, ce qui se fait là. Et avec la bénédiction de certains, c'est la porte ouverte à des aventures dangereuses pour nous tous.
Dans le rang de la population, la déception est grande et on pointe d'un doigt accusateur le pouvoir en place.
Il fallait éditer toutes les cartes et les distribuer au même moment dans tous les départements.
C'est rare d'entendre quelque part, on partage des cartes de façon parcellaire, ce qui n'est pas normal dans un pays qu'on se veut indivisible. Et je ne vois pas ce qui peut expliquer qu'on puisse commencer par distribuer des cartes dans une région et pas dans l'autre.
La Cour constitutionnelle, en déchargeant le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée, avait prévu que les électeurs qui n'auraient pas reçu leur carte à temps se servent des anciennes cartes reçues pour voter. Les secrétaires généraux des confédérations syndicales rejettent cette décision de la Cour constitutionnelle. Ils y voient une porte ouverte à la fraude et à la tricherie.
Nous, confédérations ici, nous sommes contre cela. Farouchement contre cela. Parce que c'est une ouverture dangereuse, très dangereuse. Des gens auront deux cartes, la carte Lépi actuelle et l'ancienne carte.
À l'heure actuelle, le mécontentement dans le rang des électeurs s'agrandit. Certains s'organisent en groupe pour des marches vite dispersées par la police. Et pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, le préfet vient de prendre un arrêté interdisant toute marche pacifique ou non. De Cotonou, Ginette Fleur Adindé pour VOA Afrique.
Au Tchad, hier, le procureur général a annoncé l'interpellation des 5 jeunes hommes qui ont séquestré et violé la lycéenne Zahra Mahamat Yosko, viol qui a déclenché des manifestations et fait un mort à N'Djamena, la capitale. Djida Oumar, secrétaire général du réseau des associations des droits de l'homme au Tchad, veut s'assurer que les violeurs répondent de leurs actes devant la justice. Nathalie Barge la joint au téléphone.
Ceci est quelque chose vraiment de très très grave. C'est une grande violation des droits de l'homme. Vous savez que le viol est considéré comme l'une des crimes contre l'humanité les plus graves. Donc vraiment, nous condamnons cela.
Que pensez-vous de la déclaration du procureur général?
De toute façon, je crois qu'ils sont arrêtés, ces criminels. Et je crois qu'ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Et je pense que ça fera quand même école pour tout le monde. Parce que aujourd'hui, le grand problème de notre pays, c'est l'impunité. Et je crois que nous, à notre niveau, nous avons toujours combattu cette impunité. Nous allons continuer à la combattre. Et nous allons nous approcher des autorités judiciaires pour suivre avec beaucoup d'intérêt le jugement de ces criminels. Et nous allons également veiller à ce qu'ils purgent leur peine. Parce que cet acte qu'ils ont posé est un acte criminel et ça, nous ne pouvons pas l'accepter.
Il y a effectivement notamment des fils de généraux et de diplomates. Est-ce que vous pensez que cela va être difficile de faire entendre la justice ?
Écoutez, la loi, elle est faite pour tous. Et quelque chose qui est sorti, ce n'est plus un secret. Et nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. C'est notre rôle de veiller à ce que la justice soit faite, de veiller également à ce que ces criminels-là puissent purger leur peine. On va faire de telle sorte que ces criminels soient vraiment condamnés normalement. Et il faudrait que ça soit école pour tout le monde, pour éviter de me répéter.
Et que pensez-vous de l'action du ministre de la Sécurité qui avait emmené la victime devant les caméras pour qu'elle demande de ne pas manifester?
Écoutez, la manifestation, je crois que c'est un droit écrit même dans notre constitution. Personne n'a le droit d'empêcher à un citoyen tchadien de manifester. S'il suffit qu'il manifeste dans la sérénité pour éviter de ne pas casser. Et vous savez, quand c'est des manifestations spontanées, et quand il n'y a pas de dirigeants dans la manifestation, il pourra avoir des bavures. Et ce sont ces bavures-là que nous sommes en train de gérer. Sinon, je pense que la liberté de manifester au Tchad, c'est un acquis et c'est un droit. Et les gens sont en train de manifester.
Djida Oumar, le secrétaire général du réseau des associations des droits de l'homme au Tchad, il répondait à Nathalie Barge. À Bukavu, à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, l'appel de l'opposition pour une ville morte a été partiellement observé. Les détails avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero.
La ville de Bukavu s'est réveillée dans une ambiance inhabituelle ce mardi, d'autant plus que plusieurs écoles de la ville ont renvoyé leurs élèves, les banques n'ont pas ouvert, plusieurs magasins et boutiques du centre-ville ont fermé leurs portes et plus d'un habitant a décidé de rester chez lui, répondant ainsi à l'appel de l'opposition. Adrien Zawadi, membre du mouvement citoyen Réveil des Indignés.
Je suis resté à la maison pour méditer et aussi réfléchir sur ce que moi, en tant que citoyen, je dois faire pour que la démocratie puisse régner dans ce pays. C'est une interpellation, encore une fois, où on voit qu'il y a une certaine tendance de gens qui veulent s'éterniser au pouvoir et voir quel sera notre engagement aujourd'hui où la démocratie est menacée dans notre pays.
Mais malgré ces constats, les rues de Bukavu n'étaient pas mortes du tout. Les transports en commun étaient fluides, les stations de carburant ont ouvert et dans les quartiers populaires, à Kadutu et à l'essence par exemple, les rues étaient bondées et très mouvementées avec plusieurs vendeurs ambulants et d'autres assis à même les sols qui proposent aux clients éventuels leurs marchandises. Solange Loachiga du caucus des femmes du Sud qui vaut pour la paix, explique ces phénomènes.
Ces gagne-petits sont sur la route, c'est pas pour dire qu'ils ont senti qu'il ne fallait pas méditer ou faire la ville morte, mais ils sont obligés par les conditions de vie, mais en les interrogeant, ils disent, nous soutenons le vent de la démocratie, il faut quand même qu'il y ait des élections.
Dans plusieurs bureaux et services de l'État, les agents se sont présentés, mais plusieurs ne l'ont pas fait de bon cœur. Sous les sceaux de la confidence, certains nous ont confié qu'ils sont là pour conserver leur boulot vu les pressions administratives qui pèsent sur eux. Dans l'après-midi, c'est une ville qui n'a rien d'une ville morte ni même évanouie. Une grande population en majorité jeune s'est dirigée à la place de l'Indépendance pour aller ovationner les léopards, vainqueurs de la chaîne qui font leur entrée dans la ville en provenance de Kinshasa via Goma. Pour plus d'un observateur, le gouvernement a choisi ces moments pour la tournée des léopards pour étouffer l'appel à la ville morte de l'opposition. Kake Boulindi est membre de l'opposition à Bukavu.
Pour que le peuple ne s'exprime pas contre le troisième mandat, contre la révision de la constitution, il fallait créer une autre activité qu'on a pensé que le peuple va applaudir, mais le peuple congolais n'est pas dupe. Il a compris que c'était un jeu pour effacer son expression.
Un pari gagné à moitié pour le gouvernement parce qu'au même moment, une autre frange de la population non négligeable a plutôt répondu à l'appel de l'Église catholique, invitant la population à la méditation et à la prière pour le Congo et ses dirigeants en cette date anniversaire des martyrs de la marche des chrétiens de 1990 à Kinshasa. La cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu était archi-comble, au point que certains n'ont pas trouvé des places. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, à la console Kelvin Fowler et avec vous à la présentation Anastasie Tudiech. Retrouvez-nous sur Facebook et puis pour l'information 24 heures sur 24, rendez-vous sur voaafrique.com. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.